Ce sont les voix de service qui commencent maintenant. Plutôt, j'aurais dû dire c'est l'émission, les voix de service qui commencent maintenant avec Clotilde Seille au micro jusqu'à 11h45 avec vous, alors que je céderai la place à Christiane Campagna, oui, pour le bulletin du handicap. Et mais je ne suis pas seule jusque-là. Je vais avoir un bon nombre de collaborateurs qui vont venir, qui ont fouiné dans les journaux ce matin pour vous offrir le meilleur de ce qu'on peut trouver dans les quotidiens, mais aussi sur le web. Alors dans cette première demi-heure, évidemment, il sera question des élections et de cette campagne pour les élections fédérales du 19 octobre prochain. Il y aura un éditorial sur le logement qui ne semble pas faire l'affaire des grands de ce monde, plutôt des grands du Québec, puisqu'il n'était pas à un forum, si vous voulez, sur le logement, sur notamment la vétusté du logement à Montréal, dont nous parlions hier à cette même antenne. Et puis le plaidoyer pour une plus grande justice sociale. C'est une dizaine de personnalités québécoises et canadiennes qui signent un manifeste ciblant l'inaction des politiciens. Ça fait la une du Devoir ce matin et je vais vous lire également ce qui s'écrit sur le sujet. Il y aura aussi le témoignage d'une jeune Syrienne qui a vécu l'horreur, c'est le moins qu'on puisse dire. On évoquera plutôt l'increvable Stéphane Dion et puis Tom. Ou Thomas. Que pense Tom? Et est-ce que Thomas pense la même chose? Et puis aussi, il y aura plusieurs actualités en rafale dans cette demi-heure et au milieu de laquelle je recevrai Christiane Campagna avec sa nouvelle virale. Mais pour l'instant, on va évoquer l'éphéméride du jour dans quelques instants. Nous sommes le mardi 15 septembre. Je vais encore laisser une petite seconde à mon ami Mathieu pour nous trouver des petits trésors. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Alors ce matin, 15 septembre, moi quand j'étais petite, 15 septembre, ça voulait dire la rentrée, parce que chez nous on rentre à la mi-septembre, mais c'est pas ça, pas ça du tout que vous allez me dire ce matin, 15 septembre.
Prince Harry est né un 15 septembre.
Ah oui,
le 1984, exactement.
Le petit mignon là, qui change de blonde à tous les mois, puis que ça fait pas plaisir à papa-maman.
Peut-être. Il y a aussi Oliver Stone qui est né en 1946.
Oui.
Jean Renoir en 1894.
Ah, bah oui.
Agatha Christie en 1890.
Quelle date incroyable.
15 septembre. Oui,
oh là là.
Comme tous fiers. Nous ont quitté le pianiste et le claviériste de Pink Floyd.
Ah, comment il s'appelait?
Richard Wright.
Oui,
Et Johnny Ramone, The Ramones, est
vous
décédé aussi en 2004.
Un accent anglophone absolument
remarquable. Je me pratique, vous savez. Et aussi est décédé l'éléphant Jumbo.
Ah
je sais
oui,
pas si vous connaissez l'expression Jumbo, Jet Jumbo.
Oui.
Il est décédé en 1885, tué par un train.
Ben voyons donc.
Bien, oui, oui, oui.
Ah oui, Jumbo.
C'est le plus gros éléphant. En fait, on l'appelle même le premier obèse américain. Il n'était pas américain, on s'entend, mais...
Ah oui.
Il avait voyagé de Londres, je pense, jusqu'aux États-Unis.
Parce que moi, je connaissais Jumbo, l'éléphant avec les grandes oreilles.
Dumbo. Mais Jumbo, l'expression Jumbo pour les grands formats, les gros formats, vient de cet éléphant-là.
Moi, je pensais que vous me parliez du dessin animé.
Non.
C'est tout?
C'est tout pour aujourd'hui.
Eh bien, passez une excellente émission, mon
Merci
ami.
Merci, vous aussi.
Alors, on commence ce matin avec la une du Devoir. Québec donne des armes aux intégristes, selon Fatima Ouda Pépin. Logement insalubre et inabordable, Montréal veut les pleins pouvoirs. C'est également à la une, ainsi que ce titre d'ailleurs, une subvention non sollicitée pour un congrès non désiré. Ottawa octroie 75 000 $ pour un congrès sur l'exportation du livre. Et là, personne n'y comprend rien, parce que quand on sait que M. Harper a refusé qu'on soit au Salon du Livre de Francfort, qui est un immense salon international qui nous aurait permis peut-être des partenariats dans le domaine de l'édition, Alors là, tout d'un coup, il y a ce 75 000 dollars comme ça qui tombe du ciel et que personne n'avait demandé. Et puis, un surplus surprise qui tombe à point pour Harper. Il le promettait depuis des années, ce surplus. Eh bien, son gouvernement a retrouvé l'équilibre budgétaire l'an dernier en affichant un surplus un an plus tôt que prévu. Le pari d'Angela Merkel, ça fait également la une. La décision de l'Allemagne de suspendre les accords de Schengen est une façon de forcer les pays réfractaires, comme la Hongrie, à faire face à leur responsabilité devant l'arrivée massive des migrants. Et puis il y a la photo de tous ces signataires d'un manifeste ciblant l'inaction des politiciens. Alors parmi tous ces gens que l'on voit photographier pour ce sujet, on reconnaît Naomi Klein, Denis Villeneuve, Leonard Cohen, Yann Martel, Régine Chassagne, Gabriel Nadeau-Dubois, David Suzuki, entre autres, Philippe Falardeau et bien d'autres et bien d'autres. Je vais revenir tout de suite sur ce sujet et je vous lirai aux alentours de 11h30 par là. Ce qui s'est dit et quelle est la teneur de ce manifeste qui a été signé par tous ces gens-là. Alors donc, un regroupement de personnalités publiques canadiennes de différents horizons lance ce mardi un vibrant plaidoyer en faveur d'une véritable transition énergétique axée sur une plus grande justice sociale, a appris Le Devoir. Un geste qui se veut une réponse à l'inaction climatique de la classe politique favorable à l'expansion de l'industrie des énergies fossiles et prompte à imposer des mesures d'austérité particulièrement nuisibles. Alors, entre autres, le texte dit... Nous partons du constat que le Canada et le Québec traversent aujourd'hui la crise la plus grave de leur histoire récente, expose d'entrée de jeu le manifeste intitulé « Un grand bond vers l'avant » qui sera lancé ce mardi à Toronto et que Le Devoir publie en exclusivité dans les pages JD, je vous le disais, et je vais donc vous lire ce manifeste un peu plus tard à l'émission « Restez des nôtres ». La Commission de vérité et réconciliation a permis de prendre acte d'épisodes révoltants de notre passé proche. La pauvreté et les inégalités qui s'accentuent creusent une cicatrice qui défigure notre présent et la performance canadienne dans le dossier des changements climatiques est un véritable crime contre l'humanité. À venir. Alors, ce constat particulièrement sévère de la situation, écrit Alexandre Shields, de la situation de la société canadienne et québécoise, est cautionné, je vous le disais, par plusieurs personnalités au pays. Je pourrais en rajouter d'autres, comme par exemple Donald Sutherland ou Neil Young aussi, ainsi que le philosophe Charles Taylor. Logement social, Isabelle Paré écrit avec Robert Dutrisac, indigné par l'état déplorable de salubrité et d'abordabilité des logements à Montréal dévoilé par la Direction de la Santé publique, la DSP de Montréal. Le maire Denis Coderre soutient que la solution passe par l'adoption, par Québec, d'une loi sur la gouvernance et l'octroi de pouvoirs longtemps réclamés par la métropole pour gérer elle-même les problématiques sociales sur son territoire. Lors du Forum montréalais sur le logement et la santé, où les ministres québécois et fédéraux concernés par le logement ont brillé par leur absence, le maire Coderre a repris lundi le flambeau de la nécessité d'une loi accordant à Montréal le statut de métropole, doublé de budgets conséquents pour agir sur la situation désastreuse du logement. On en parlait hier, je me souviens des chiffres. On dit que 30% des gens qui vivent à Montréal vivent dans des logements insalubres, mauvais pour la santé, infestés de champignons, quand ce n'est pas de bibites. Alors, sur ce sujet, il y a aujourd'hui un éditorial de Mme José Boileau sur ces ministres qui n'ont pas jugé bon de se rendre à ce forum montréalais. Et Et Madame Boileau qui dit, attendez, comment ça, c'est pas leur affaire, le logement. Ni Québec, ni Ottawa n'ont cru bon de déléguer un représentant sur le logement et la santé qui s'est tenu lundi à Montréal. C'est une absence gênante, dit-elle, pour un problème lui-même absent des têtes de nos gouvernements actuels. Insalubrité, pauvreté, difficulté à se loger. Faut croire que cela ne relève pas des vraies affaires. Et pourtant, tout cela concerne le tiers des ménages montréalais. Il faudrait reprendre une à une toutes les données dévoilées par la Direction de la Santé publique de Montréal dans le rapport exhaustif qu'elle vient de consacrer au logement. Des punaises de lit aux moisissures, du nombre de plus en plus grand de ménages qui consacrent plus de la moitié de leurs revenus, jusqu'à 80% dans certains cas, pour se loger, en allant jusqu'au manque de logements sociaux. Il y a largement de quoi s'inquiéter, nous rappelle Madame Boileau. Le constat du directeur de la santé publique, le docteur Richard Massé, est clair. Le logement est devenu un enjeu de premier plan à Montréal et est un élément structurant dans la vie des gens. La présence même du maire Coderre au forum témoignait d'une nouvelle conscience quant à l'importance structurante d'un logement accessible et de qualité. À l'entendre interpeller les candidats aux élections fédérales pour réclamer de nouveaux logements sociaux et de l'argent pour l'entretien et la rénovation de ceux existants, on aurait pu croire que le Frappru, cet acteur majeur des luttes pour le logement social au Québec, venait de se trouver un nouveau porte-parole. « Il a raison, le maire, » dit Madame Boileau. Ce n'est plus de militantisme social dont il s'agit, mais de choix économiques et de santé publique. Alors Ottawa doit mieux faire, les conservateurs ayant été particulièrement pitoyables dans ce domaine. Le NPD et le PLC ont au moins des propositions, mais Québec, qui a réduit de moitié sa prévision de construction annuelle de logements sociaux dans le dernier budget LITAO, doit aussi rendre des comptes. Elle conclut en disant « l'austérité coûte trop cher pour être une réponse ». En ce qui concerne les élections, électorale, en ce qui concerne le devoir, quelques gros titres, un surplus, surprise qui tombe à point pour Harper, le chef conservateur est garanti un second excédent budgétaire cette année. Vous savez qu'il le promettait depuis des années, nous rappelle Madame Vastel. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Et là, il a tout d'un coup le grand sourire, Monsieur Stephen Harper. L'heure juste, les rois de la brique et du mortier. En chiffre absolu, on peut dire que le gouvernement conservateur a dépensé plus que tout autre gouvernement avant lui en matière d'infrastructure, nous dit-on en légende, à une photo où l'on voit un ouvrier en train de s'affairer sur un chantier. Alors, ce qu'ils ont dit, les uns et les autres, le chef libéral Justin Trudeau, nous allons faire le plus important nouvel investissement dans les infrastructures de l'histoire du Canada. M. Harper a dit « Nous allons poursuivre le plan d'investissement dans les infrastructures le plus long, le plus vaste, le plus ambitieux qu'ait jamais mené un gouvernement canadien dans l'histoire de ce pays. » Alors les faits maintenant, nous dit Mme Cornelier. M. Trudeau promet de dépenser près de 60 milliards de plus que le gouvernement conservateur sur une période de 10 ans. Le gouvernement de M. Harper, lui, rappelle qu'il a fait des investissements et en a annoncé d'autres dans ses derniers budgets. Il totalise environ 80 milliards de dollars de 2007 à 2024, dont un peu plus de 60 milliards qui restent à dépenser. En chiffre absolu, on peut dire que le gouvernement conservateur de M. Harper a effectivement dépensé plus que tout autre gouvernement avant lui. Et si un gouvernement libéral en remet, on nagera encore dans les records. Et puis, juste avant de me tourner vers Christiane Campagna, qui est arrivée pour sa nouvelle virale, juste quelques mots, parce que c'est un témoignage. Et que parfois, on a beau savoir que, par exemple, les réfugiés syriens sont des gens qui souffrent, sont des gens dont les maisons ont souvent été détruites par l'ONU. Là, il y a, par exemple, la photo de cette jeune femme, une très belle jeune fille, qui est une réfugiée au Canada. Et elle a été soumise, cette femme-là, à des chocs électriques. Lorsqu'elle était en Syrie, on m'a présenté à des gens qui partageaient mes idées politiques sur le campus et nous avons organisé des manifestations à Damas, a-t-elle relaté. J'étais dans ces manifestations, j'ai entendu des coups de feu, j'ai couru, j'aurais pu être abattue. Du coup, elle s'est fait arrêter. Ils l'ont rouée de coups de pied et frappée dans un bureau. Ils l'ont ensuite menottée, ils lui ont bandé les yeux pour l'amener au patron de l'organisation qui lui avait demandé pourquoi elle avait distribué ces feuillets. Il lui a finalement infligé plusieurs chocs électriques. Ce n'est pas une question de donner la bonne réponse, c'était pour m'apprendre une leçon, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, cette femme habite le Canada. Elle est venue rejoindre un cousin qui était venu la visiter en Syrie, qui lui avait proposé de venir le rejoindre. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle vit ici depuis 2012. Elle est résidente permanente et elle espère bientôt obtenir sa citoyenneté. Bonjour Christiane.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Alors ce matin, qu'est-ce qui arrive un petit peu sur la toile? De quoi on jase? De quoi on cause?
Hier en après-midi et en soirée, les médias sociaux ont été enflammés par deux... C'est des chansons en fait, dans des deux cas. je pourrais appeler ma chronique « Vers d'oreille ou le ridicule ne tue pas ». Elle mettra en vedette Maxime Bernier et si on a le temps, Natacha Saint-Pierre. Alors... Maxime Bernier a hier lancé son nouveau slogan électoral sur les ondes radiophoniques et Vincent Marissal l'a présenté comme suit en disant « Non, ce n'est pas une blague et si Mathieu veut bien, on pourrait l'entendre. »
Oh, il veut oui, pas? Oh oui, on oui, veut, on oui, veut, on veut, on veut, on veut.
Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier, notre
Nicolas Boisvert a écrit « Breaking news, paraît qu'un sondage récent révèle que Maxime Bernier perd des votes chez les éditeurs qui ont des oreilles. » Et Mathieu Moreau a écrit « Le jingle de Maxime Bernier me donne une furieuse envie de faire mon épicerie chez Steinberg. » Parce que tout le monde a bien trouvé que ça ressemblait à des jingles des années 70-80. Ben oui, ben oui. Et moi, celui auquel ça m'a fait penser tout de suite, c'est le bon vieux jingle du métro de Montréal s'appelait « Il fait beau dans le métro ». On va peut-être entendre dans quelques instants.
Le voici.
Il fait beau dans le métro.
Ah ouais, c'est
pareil.
Ça, hein?
Il fait beau dans le métro.
Ah ben absolument.
Ou même la
chanson thème de l'Expo en 67. Oui. Ça ressemble à ça aussi.
On est carrément dans ça. Ce qui fait dire à Mathieu Charlebois, une pub radio des années 70 et des idées des années 1940. Maxime Bernier, un candidat pour aujourd'hui. Et l'autre personne qui a fait la controverse hier même, c'est la chanteuse Natacha Saint-Pierre, ouais, chanteuse acadienne maintenant en France, qui a fait une reprise de la chanson « Les Acadiens » de oui. Michel Fugain, oh! qui déjà, bon, véhiculait son lot de clichés.
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes.
Et voilà.
Je connais ça, moi, c'est mon époque.
Et
moi.
Voilà. Sauf que dans le vidéoclip, elle se la joue amérindienne avec la coiffe de plumes, les capteurs de rêve et tous les clichés là, qu'on peut imaginer, qu'on peut véhiculer sur la culture amérindienne. Encore une fois, Mathieu Charlebois, Natacha Saint-Pierre rend hommage à l'Acadie en se déguisant en amérindienne dans un clip tourné à une heure de Paris. Parce que c'est le cas, ça a vraiment été tourné en
c'est
France.
Vrai?
Et mais en Acadie, on n'est pas content.
Ben non.
Parce que, déjà cette chanson-là au départ, et puis, mais c'est...
Non, c'est sûr que nous, ça nous fait rire, mais il doit y avoir des dents qui grincent quelque part, et c'est normal, quoi, c'est sûr.
Exactement. Donc, Radio-Canada, Acadie, justement, hier, dans les Maritimes, on titrait le nouveau clip de Natacha Saint-Pierre, ridiculisé en Acadie. Elle a été... défendue par Edith Butler, qui a dit que c'était plein de bonne volonté, puis qu'elle n'a pas honte, et que la partie cliché devait être la faute de Sony, parce qu'Edith a participé à son album, là. Mais il y a un monsieur qui a dit « J'ai honte, comment peut-elle rire mieux que ça de notre nation. Coiffe de pain, pourquoi pas des plumes d'autruche?
Mais non, mais c'est, on a un peu raison quand même. Parce que on rit en plus, je suis contente parce qu'on rit des Français. Quand ils pensent encore ben, que les ours dorment à 500 mètres de Montréal et qu'il y a encore des Indiens qui vivent dans des tipis, mais c'est aussi ridicule.
Ben là, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une chanteuse établie en France maintenant, mais qui participe. Ah. Au lieu de contribuer à combattre ses préjugés, elle y participe.
Ben oui.
Elle les perpétue. Et j'avais écrit hier, elle a reçu le mémo de Oshiaga comme qu'on ne portait plus les coiffes amérindiennes qui avait interdit même les gens d'en porter à son festival cet été parce qu'il y a des gens qui portaient cet important symbole amérindien strictement par effet de mode.
Merci beaucoup.
Et ça m'a fait plaisir et je m'excuse pour les pièces que vous aurez dans la tête toute la journée.
Alors, à la une de la presse ce matin, Philippe Quentin, la fierté de Québec. Philippe Quentin, il, qui nous dit que l'enthousiasme suscité à Québec par le centre Vidéotron, il pose la question, est-ce qu'il est démesuré? Le chroniqueur rappelle que Montréal aussi a été fort, très fort, avec l'ouverture de la demeure du Canadien il y a 19 ans. Francis Weiss se demande qui est le nouveau patron de SNC-Lavalin et on revient sur cette triste histoire, la mort d'une patiente après son départ des urgences et un médecin radié s'explique, un médecin dont une patiente est morte peu après avoir été autorisée à quitter l'hôpital affirme avoir dû assurer seule une nuit de week-end la garde des urgences de la Cité de la Santé et avoir été submergée par le nombre des patients. D'après lui, ceci explique cela. Et puis Vincent Maréchal signe une chronique qui s'intitule « L'increvable Stéphane Dion ». Je vais vous en lire quelques extraits. « Il y a ces images de désolation totale. Nous sommes dans le village de Middletown, hier, dans le nord de la Californie. Vous savez que les incendies font des ravages terribles en Californie. 12 grands feux ravageaient encore hier la Californie et ils se propageaient à la plus grande vitesse jamais observée en 30 ans, selon le directeur des services d'urgence de l'État. On voyait entre autres des pompiers complètement exténués. Puis à un moment donné, ils se sont assis, puis ils ont laissé faire. Ils ne pouvaient plus rien faire, tellement les flammes vont vite, tellement l'incendie fait rage et les flammes vont vite. Alors, et puis il y a décidément, le plateau Mont-Royal est à l'honneur dans la presse en ce moment. On nous présente une terrasse qui a été démolie pour une erreur administrative sur la rue Laurier, au cœur du plateau Mont-Royal. Le petit clin d'œil de Stéphane Laporte, que j'aille voir ce que Vincent Maréchal a à nous dire au sujet de Stéphane Dion. Les bourgeois du plateau songent à migrer en Allemagne. Alors, il a été tout surpris, notre ami Vincent Maréchal, en rencontrant le chroniqueur politique, en disant vraiment, à chaque fois que je le retrouve, je me demande qui est ce bonhomme détendu, souriant, et oui, drôle, qui est assis en face de moi, comme ça lui est arrivé assez récemment, pas très loin d'ici, dans une pizzeria. Monsieur Stéphane Dion tapait maladroitement sur son Blackberry et il s'excusait. Et puis là, une fois qu'il a eu fini, il a dit « Bon, ben voilà, c'est fait. C'est un ami qui m'a demandé d'aller jouer au tennis ce soir. J'ai refusé parce que nous sommes en campagne, mais finalement, j'y ai pensé. Mais pourquoi ne pas aller jouer et puis aller manger à la cage au sport, serrer quelques mains et regarder la demi-finale du US Open ?» Alors voilà, et Maréchal qui dit « Il avait l'air satisfait d'un gamin qui vient de trouver la combine pour faire ses devoirs tout en sortant jouer dans la ruelle avec les copains. » Il faut dire que la présente campagne est moins difficile que celle de 2004 et de 2006, dit Maréchal, assombrie par les commandites. Moins difficile aussi que 2008, alors que M. Dion, était chef libéral, et moins qu'en 2011 avec un Michael Ignatieff qui passait mal dans l'électorat. Et puis, la longueur inhabituelle de la campagne sert le Parti libéral, affirme M. Dion. Ça nous aide, parce qu'avec les libéraux, ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais noir ou blanc, comme nos adversaires qui font campagne campagne sur des slogans, comme M. Mulcair qui promet 1 million de places en garderie même si son plan ne tient pas la route. Nos positions sont nuancées et plus difficiles à expliquer, mais cette fois-ci, nous avons du temps. La longue campagne permet aussi de dissiper les doutes des électeurs envers Justin Trudeau, malmené par les publicités négatives des conservateurs. Les publicités négatives ont fonctionné, dit-il. Bien des gens trouvent Justin trop jeune ou pas prêt. Ils sont surpris quand on leur dit que Justin a tout de même 43 ans. On lui demande aussi, est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il garde un souvenir douloureux de sa défaite en 2008? Il dit « Oui, j'ai été blessé par des attaques parce qu'elles ont marché. Il ne faut pas sous-estimer les conservateurs, ils sont maîtres dans les publicités négatives. » Alors voilà, Stéphane Dion, bon pied, bon œil, qui est reparti en campagne, très serein, cet homme traqué de 2008, le prof Cassant de 1997, le père de la loi sur la clarté des années 2000, eh bien, on fait place à un vétéran en paix avec lui-même qui se permet quelques pointes d'ironie. « Mon plan était le meilleur plan de lutte au changement climatique », commence-t-il avec enthousiasme avant de s'autocorriger, sourire en coin. Ben, en fait, je veux dire le deuxième meilleur plan après celui que mon parti présente maintenant. Tom et Thomas, écrit Lisiane Gagnon, nous sommes toujours dans la presse. Tom dit-il la même chose que Thomas? Pas toujours. Prenez la question de l'oléoduc transcanadien. Quand Tom Mulcair s'adresse au Canada anglais, il voit le pipeline comme un bon outil de développement économique et une solution de rechange souhaitable au transport par rail. Et quand Thomas parle en français au Québec, le projet d'oléoduc devient tout à coup problématique. Il ajoute un gros bémol. Faudra que cela s'inscrive dans le respect des normes environnementales. Sous-entendu, le projet pourrait ne pas avoir le feu vert d'un gouvernement néo-démocrate. Prenez aussi la question référendaire. Mulcair, quand il parle au Québec, aime bien évoquer la déclaration de Sherbrooke, adoptée par le parti sous la direction de Jack Layton, laquelle stipulait, contrairement à l'avis de la Cour suprême et à la loi sur la clarté, qu'une majorité de 50% plus une voix suffirait à enclencher le processus de souveraineté. Mais Tom et son équipe ont bien pris soin d'effacer du site web du parti toute allusion à cette position. Et l'autre jour, talonné de près par Peter Mansbridge à la CBC, il a systématiquement refusé d'énoncer clairement la règle du 50+1 pour marteler une phrase sibylline « Ceux qui gagnent, gagnent ». Le défi du NPD était auparavant de se débarrasser des vieux oripeaux radicaux du NPD fédéral, de revenir à la prudence fiscale. Le NPD a même retiré l'étiquette socialiste de sa reconstitution. Les attaques naïves du Bloc n'ont fait que renforcer la nouvelle personnalité du NPD. Mais c'est pas fameux comme tactique, conclut Lisiane.
Tout de toi. J'aime tout de toi, tes cheveux en folie, le son de ta voix. J'aime tout de toi, tout de toi. J'aime tout de toi, ta rivière argent quand elle s'ouvre à moi. J'aime tout de toi, tout de toi. J'aime aussi tous tes états d'urgence, les nuits cafards, de chambre à part, tout de toi. J'aime tout de toi, tout de toi. J'aime tout de toi, tes cheveux en folie, le son de ta voix. J'aime tout de toi, tout de toi. J'aime tout de toi, tes seins lumineux que je prends dans ma main, ton corps frileux qui s'en mêle au mien. J'aime tout de toi,
j'aime
tout de toi. J'aime tout de toi,
j'aime
tout de toi.
Moi aussi j'aime tout de vous.
Oh, juste ça.
Mais moi aussi j'aime tout de vous. Qui chantait ça, mon petit Mathieu? Voudrais-tu ouvrir ton petit micro quand tu me réponds?
Monsieur Les Tourneaux.
Monsieur Les Tourneaux. Ah oui, voilà. Pierre Les Tourneaux. Oui. Est-ce que ça faisait partie de son dernier album, ça? Je pense qu'il avait fait...
Tout de toi. Qui est sorti sur l'album Foutue Société, qui est sorti en 2012.
Ah ben c'est ça exactement. J'avais été très surprise de voir que Pierre Les Tourneaux avait remis ça et était retourné en studio. Bonjour mes amis, Michel Audet,
bonjour
André, Étienne, mes deux premières voix de service ce matin à ce magazine. Alors, il sera beaucoup question, vous vous en doutez, de voyage et de science et de nature, parce que ces deux personnes-là adorent ça, ils en mangent. Non, pas des animaux, je veux dire, pas dans ce sens-là, mais c'est vrai que vous êtes tous les deux passionnés et de voyage et de science. Michel, aujourd'hui, vendez-nous un peu votre salade, alors. Vous nous amenez...
Je vais vous faire découvrir un endroit. Vous savez, la plupart des endroits dont je vous parle, c'est des endroits où j'ai été.
En plus.
Que je connais assez bien. Ou, sinon...
Ça se place bien dans une conversation.
Ouais, non. Sinon, ce sont des endroits où j'aimerais aller.
Oui, d'accord.
Et j'ai découvert un endroit particulier qui s'appelle l'île de sable.
Oh!
Je pense que très peu de gens connaissent.
Non, effectivement.
Pour moi, c'était une découverte.
Où est-ce que ça pourrait être? Allez, on va essayer de découvrir ça, André.
Non, ouais. Okay,
dans l'eau.
Je vous laisse.
Dans l'eau, oui.
J'espère que c'est...
Je vous laisse imaginer.
Que c'est dans l'eau, c'est sûr.
Vous préciserez. Vous allez découvrir avec moi.
Vous allez avoir un deuxième
mais
sujet?
Oui. Est-ce que ça serait possible qu'on connaisse ce qu'on a appelé le parc jurassique?
Oui.
Parce qu'il semblerait qu'on tente de faire revivre le mammouth. Ah oui,
attendez, le faire revivre, mais le faire revivre...
Vous allez m'écouter, vous allez savoir.
Bon, okay. Est-ce qu'on reverra un jour ces adorables créatures?
Ouais.
Alors que les éléphants sont en train de disparaître
en plus.
Alors André, je me tourne vers vous. Bon, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler du goût, parce que je lisais une série d'articles.
Ah oui.
Et puis j'avais vraiment envie de vous en parler, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport au goût. J'espère que vous allez m'en poser l'un et l'autre, et puis que je vais pouvoir y répondre au bénéfice de nos auditeurs. Et aussi, je vais vous parler des animaux, en l'occurrence des charognards, des vautours charognards. Ah, je vois les yeux de Clotilde, si vous voyez ça.
C'est parce que j'ai des images, tu sais, entre autres à Cuba, tu sais, quand il y a des petits chiens errants qui sont écrasés, puis les charognards.
Ils sont très laids, mais ce sont les éboueurs de la nature.
Ah ben oui, mais oui, ils sont importants.
Bon, est-ce qu'ils méritent leur réputation de charognards ou pas? Est-ce
que quand même,
pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Ils peuvent être ces éboueurs de la nature.
Mais oui.
Je vais parler des oiseaux-mouches aussi, évidemment.
Oh, j'adore.
Ça va compenser. D'un extrême à l'autre. Hein, les petits oiseaux-mouches. Et puis, je vais vous parler également de la plus grande force des aigles royaux.
Ah oui.
Voilà. Donc, la force, la beauté et...
Oh.
Le ménage.
Et l'élégance d'André Étienne. Ouais. Alors, on va commencer. Tiens, on va commencer. Allez, on y va. Hein. On part en voyage. Hein. Ça
oh,
va,
j'ai
André,
absolument
on
pas de problème avec ça.
Alors,
ça,
on va peut-être avoir un petit. On va avoir un petit jiggle voyage. Vous savez que je vous ai fait découvrir la semaine dernière et que déjà 387 auditeurs m'ont demandé de réentendre. Alors,
oui.
Alors pour ces 388, pardon. Alors pour ces 388 personnes, revoici le jingle voyage.
Et voilà.
Alors, la semaine prochaine, je vais apporter mon ukulélé.
Ben oui.
Oh, oui. D'accord. Ben oui.
Vous en jouez? Sérieux?
Pas du tout. C'est une décoration.
Alors, l'île de sable.
Que je vous parle de l'île de sable.
Oui.
C'est tiré d'un article de Marie Tison dans la presse du 29 août. Alors, l'île de sable, c'est vraiment un mince croissant, mais ça a quand même 40 km de long. Et ça se trouve près des côtes de la Nouvelle-Écosse. En fait, à 160 km des côtes de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pas loin de chez nous.
Non.
Alors, jusqu'en décembre 2013...
Ah oui, de la Nouvelle-Écosse.
Nouvelle-Écosse, pas en Écosse. Nouvelle-Écosse. Chez nous, chez nous. Non, jusqu'en décembre 2013, la garde côtière canadienne était responsable de l'île. Parc Canada a pris la relève. Mais il ne faut pas s'attendre à une invasion de touristes, hein, parce que l'accès demeure extrêmement difficile et coûteux aussi. Et c'est que le brouillard couvre l'île 125 jours par année environ.
Et, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Et la piste d'atterrissage, c'est une plage. Et le terminal, c'est une camionnette.
Vous
imaginez un peu. Hein? Et à côté de l'île, ce n'est pas nécessairement plus facile. Il n'y a pas de quai. Et vous pouvez vous imaginer, la mer est souvent très, très agitée. Parce qu'il y a plein de bancs de sable.
Alors, qui vit là, s'il vous plaît?
C'est accueillant, cette histoire-là, par exemple?
En fait, vous allez découvrir en cours de route, il y a très peu d'habitants. Qui habite cette île de sable.
En tout cas, ce sont des courageux.
Il y a Adventure Canada, qui c'est une agence qui spécialise dans les croisières dans le Grand Nord, qui a travaillé avec Parc Canada pour offrir un voyage dans l'île de sable. Donc, ce n'est pas un endroit où on va régulièrement, accessible aux touristes.
C'est comme Mars, quoi. On y va, mais on n'en revient pas.
Alors, qu'est-ce qu'on y découvre? Ben, les passionnés de chevaux. On sautait sur l'occasion, parce que pour plusieurs, il s'agit d'un rêve d'enfant. Vous savez que même à un certain moment, il y a eu une campagne à la fin des années 50 pour demander au gouvernement Diefenbaker, à l'époque, de ne pas rapatrier les chevaux sur la terre ferme pour les vendre. Alors, le premier ministre canadien a accepté de protéger les chevaux sauvages de l'île de sable. Donc, c'est la caractéristique de cette île. Or, il y a une légende. Mais selon la légende, ces chevaux auraient échappé à un terrible naufrage et se seraient réfugiés sur l'île. Mais la réalité est encore plus fascinante. La présence des chevaux est liée au grand dérangement. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le grand dérangement?
Non.
C'est la déportation des Acadiens.
Ah, ben oui, bien
de
sûr,
nombreux Acadiens ont dû abandonner leurs animaux de ferme lors de la déportation.
Oui, bien
sûr. C'est en 1755. Et il y a un riche commerçant de Boston qui a mis la main sur les chevaux et d'autres animaux et les a installés dans l'île de sable. Bon, on ne sait pas exactement
pourquoi. On sait pas pourquoi. Non, c'est ça.
Alors, au cours des années, les vaches, les cochons et autres, ils ont été mangés par les habitants de l'île. Et donc, ce qui est resté, c'est uniquement les chevaux. La flore et la faune de l'île est très riche. Il y a 190 espèces de plantes, 350 espèces d'oiseaux. Pour les amateurs d'oiseaux, il y a le bruant d'Ipswich, que je ne connais pas, mais il semblerait que c'est unique. Il y a 600 espèces d'invertébrés, des mammifères marins, et bien sûr, ce qui domine, c'est le cheval.
Mais pourquoi ils n'ont pas mangé les chevaux?
Mais c'est
parce
ça.
Parce que ça se mange aussi, les chevaux, non?
Ils n'ont pas mangé les chevaux.
Ah non.
Ils auraient pu.
Ah non, ils sont... non, pour quelle raison ils ont décidé de ne pas manger les chevaux?
Mais ce sont peut-être les chevaux qu'ont mangé les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les chevaux puis il y a les hommes.
Les photographes, ben, ils en profitent et installent leur trépied à la distance réglementaire. C'est 20 mètres. Ils sortent des lentilles qui sont des espèces de bazookas. Vous savez, ces immenses lentilles qu'on voit...
Pour photographier les chevaux?
Ben oui, c'est ça. Okay. Parce
qu'ils sont sauvages complètement.
C'est très riche, ben oui. Et vous pouvez sortir de superbes photos. Il n'y a aucun arbre dans l'île de sable et pas de rocher. Donc, tout ce que vous trouvez, c'est de la végétation, tout simplement.
Et des chevaux.
C'est ça. Et la présence des paparazzis débridés, ben, ça ne semble pas déranger les chevaux. Ils sont habitués. Ils poursuivent leurs occupations quotidiennes. Occupations quotidiennes, c'est brouter.
C'est
et piquer un petit somme. En fait, c'est une immense plage cette île de sable. Et ça a une réputation particulière parce que ça a déjà été le cimetière de l'Atlantique.
Oh!
Si vous vous promenez, vous allez trouver d'étranges bouts de bois qui vont émerger du sable à certains endroits. C'est que l'île de sable a une sinistre réputation auprès des marins. On l'appelle le cimetière de l'Atlantique parce qu'au moins 350 navires se sont échoués sur la surface et au moins 10 000 personnes ont perdu la vie.
Oh, ça, c'est moins drôle.
Ah oui. Ben, vous savez, ben, le brouillard, on a mentionné le brouillard tout à l'heure. Mais ça. Oui. Puis ensuite de ça, c'est vraiment la situation. C'est la route, ça se trouve sur la route qui relie l'Europe à l'Amérique.
Mais oui.
Donc, j'avais énormément de navires qui n'avaient pas les moyens à l'époque pour déceler les bandes
de sable. Qui n'avaient pas de sonar, tout ça.
Donc, c'est ça, exactement. Mmh. Alors, voilà, on l'a appelé le cimetière de l'Atlantique. Et chose intéressante, c'est qu'il est interdit de procéder à de l'exploration et de l'exploitation pétrolière ou gazière actuellement. Malheureusement, il y a beaucoup de déchets qui s'échouent régulièrement sur les plages, notamment des ballons. C'est étonnant, hein? Des morceaux de plastique.
Ah, oui.
Ben, c'est sur la route des courants. On en a parlé déjà, îlots. On aura l'occasion d'en reparler. Des îlots qui se forment dans l'océan. Ben là, ça se ramasse sur le banc de sable. Donc, l'avenue de touristes, ça constitue un autre péril. Vous savez, quand on entre sur l'île, il faut absolument passer dans un baquet pour désinfecter les chaussures.
Oui.
On fait la même chose à plusieurs îles. Hein. Je pense aux Galapagos. Si vous prenez d'une île à l'autre, vous devez passer dans des baquets à ce moment-là.
OK.
Pour ne pas transporter des plantes d'un endroit à un autre, pour ne pas qu'il y ait de contamination.
Donc, elle est quand même très protégée, cette île-là.
Elle est quand même protégée.
Et les chevaux, est-ce qu'ils sont considérés comme un patrimoine...
Très certainement.
Parc
Canada, c'est ça. Bien, il n'y aura pas de croisière. Ça a été, cette croisière-là, c'était unique. Hein? Il n'y aura pas de croisière à l'île de Sable en 2015 parce qu'on est en train d'évaluer l'effet qu'on est touristes sur ça. Et probablement le prochain voyage, j'espère que j'y serai, il sera du 11 au 19 juin 2016. Alors, prenez note pour les vacances.
Voilà. En effet, oui.
11 et 19 juin.
Est-ce qu'il y avait des photos pour... non? Il n'y avait pas de photos, non?
Ben, il y a quelques photos, c'est assez banal.
C'est assez banal, oui. Vraiment, ben, une
écoute,
île, quoi.
On voit un banc de sable.
Oui, c'est ça. OK, d'accord.
Il n'y a même
d'accord.
pas de photos de chevaux.
Ah non? Oh, ben, ça, c'est dommage. C'est dommage.
Il va falloir se dépêcher d'y aller avant que le réchauffement climatique ne fasse que... Que l'île soit submergée et n'existe
mais
plus.
Ce qui peut arriver, hein? Ce qui peut arriver, parce que c'est quand même pas élevé. Alors,
ben oui,
il est fort possible. On a parlé d'îles à un certain moment, d'îles importantes qui sont en voie de disparition.
Ah oui.
Et ça pourrait être le cas dans
celle-ci. Il doit y avoir des trésors aussi, puisqu'il y avait tous les bateaux
qui ont échoué.
Aller faire de la plongée, là. Bon,
mais hier, dans le journal de Montréal, il parlait d'un couple qui ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de ça. Ils passent leur vie sur un bateau et ils courent après les trésors. Alors,
Est-ce qu'ils vivent bien?
Ben, apparemment, ils auraient déjà récolté à peu près 2 millions de dollars depuis qu'ils ont commencé ça. Ils ont une quarantaine d'années, ça fait déjà longtemps qu'ils naviguent.
Ouais.
Alors, c'est quand même pas mal, non, effectivement. Non. Merci beaucoup, mon petit Michel.
Merci.
Est-ce qu'on met un petit instru pour nous amener... J'en ai un petit jingle là, en ce moment que je suis en train de faire pour la science. Là. Il va arriver bientôt. Ça va être une fusée cette fois-ci.
Une fusée. Non.
Alors, mon ami André...
Bon, alors, donc, moi, je vais vous parler de cet article qui m'a passionné, donc, sur nos différents sens, et le premier étant le goût. C'est extrait de la revue Science et Vie du mois de août-septembre 2015.
Mm-hmm.
Alors, le goût. Bon, c'est toute une alchimie, parce que c'est une alchimie cérébrale tout à fait secrète. Parce qu'elle fait... C'est un aliment qui fabrique une saveur et l'aventure commence sur les cellules gustatives de notre langue qui sont renfermées dans nos papilles. Mais la perception du goût, elle est basée sur les odeurs. Le goût, il implique également plus que n'importe quel autre de nos sens, notre cerveau ainsi que nos autres perceptions. Et dans l'article, ils disent bien, ils insistent beaucoup en disant qu'il s'agit toujours d'une expérience sensorielle subjective.
Et excusez-moi de vous interrompre parce que là, je ne sais pas si c'est le bon moment pour vous poser cette question-là, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui apprécient, par exemple, le côté sucré du chocolat, alors qu'il y en a d'autres qui apprécient le côté
amertume, amère.
Amertume du chocolat.
Du chocolat.
Ben ça, je pourrais vous en parler parce que la majorité des gens aiment le chocolat.
Oui.
Et moi, je trouve ça très amer.
Oui. Alors, donc, ben surtout ça, celui c'est... à 70%.
Ah, là, je trouve ça épouvantable, ça, vraiment. Ben, il semble que ça soit lié à l'influence des gènes parce que ce sont eux qui codent la sensibilité de nos cellules gustatives. Au passage, je vous signale qu'on en a quand même juste 300 000. Donc, ce sont donc ces gènes qui nous rendent sensibles aux diverses saveurs. Vous savez que ce sont le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Alors, il y en a un autre qui s'appelle l'umami. C'est provoqué par la présence du glutamate. Et donc, il y a une multitude d'autres saveurs. Mm-hmm. Mais ce que je voulais vous dire justement, ça, donc, ce sont nos gènes qui vont nous permettre d'apprécier ou non, par exemple, le sucré du chocolat. Mais je vais vous parler d'une étude qui a été faite par l'Institut national de recherche agronomique à Montpellier. Alors, ils ont utilisé les services de sommeliers qui sont réputés et qui étaient chargés de classer par ordre de préférence 18 vins dont ils ne connaissaient pas l'origine. Alors, le résultat, c'est que certains vins de table très, très ordinaires se retrouvaient devant des crus prestigieux. Ça fait surprenant, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, ce qu'ils disent en conclusion, il n'existe pas d'observateur standard.
Hey, donc, le vin de dépanneur avant le Pétrus.
Oui, ça fait un peu dur quand même. Hein. Mais je pense que c'était vraiment une étude sérieuse même. L'Institut de recherche agronomique de Montpellier. J'ai vu que Montpellier sont des gens sérieux. D'accord. Bon, donc ces gènes, ils sont différents d'une personne à l'autre. Et ça explique justement pourquoi vous aimez le chocolat et moi pas. Hein. Donc, on peut goûter les mêmes boissons. Ce ne sont pas les mêmes signaux électriques en provenance de la bouche et du nez qui gagne votre cerveau et qui gagne le mien.
C'est pour ça que finalement, quand un enfant dit « mais je ne veux pas », puis que les parents le forcent à en manger, c'est épouvantable.
Oui, parce que normalement, ils seraient supposés avoir les mêmes gènes.
Ben oui.
Alors, ils ne comprennent pas. Là,
c'est ça. C'est, mais là, regarde, s'il n'aime pas ça, t'y proutes, il n'aime pas ça.
Oui. Mais ce qu'il y a, c'est quand même aussi ce qu'il y a, c'est que pour avoir une perception, donc, il faut plonger dans le cerveau parce que les signaux sensoriels en provenance donc, des récepteurs gustatifs, ils sont traités non pas individuellement, mais en fonction d'autres informations. Parce que, je vous disais tout à l'heure, le goût, c'est un sens multisensoriel. Hein? Et tous nos sens, quand on parle du goût, participent. Que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher. Mais quand même, l'odorat, lui, il génère à lui seul 80% des sensations qui sont liées au goût.
En effet.
Bon, vous imaginez bien que, par exemple, le contexte, si vous buvez un vin de table en présence de votre amoureux, vous allez le trouver très bon. Mais si vous buvez le Pétrus dont vous parlez Clotilde, peut-être, si vous êtes avec des gens désagréables, vous ne l'aimerez pas. C'est possible.
Ah oui, ça joue énormément.
Faire abstraction, l'ambiance peut intervenir dans cette...
l'atmosphère.
Exactement, exactement. Ou le souvenir qu'on a d'un vin, par exemple.
Oui, ça,
quelle que soit l'ambiance, on a un certain souvenir olfactif, l'humeur du moment.
Un Chianti chez moi ou un Chianti en Italie, c'est différent.
Comment ça se fait qu'il y en a certains, par exemple, qui détestent... attendez, je vais vous en trouver un. Le lait, tiens.
Ah oui, le lait. Ben, ça, c'est effectivement quelque chose de spécial, ça. Alors, bon, comment ça se fait? On pourrait peut-être se poser la question en se demandant pourquoi certains aliments... Bon, on va prendre le lait, par exemple, qu'il soit prêt ou pasteurisé, sont appréciés ou non. Eh bien, il faut savoir que, bon, d'abord, les enfants, ils en consomment 70%. Ils en consomment beaucoup, mais 60% des adultes, et ce, surtout en Asie et en Afrique, s'en détournent. En fait, plus de 50% des Européens le digèrent bien.
Ah oui.
Mais une majorité de Zambiens ou de Chinois ne le tolèrent pas ou mal. Alors, l'explication, elle serait culturelle et génétique, encore une fois.
Encore une fois. Hein.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, l'intolérance au lactose. Hein, c'est bien à la mode, hein, toutes les formes d'intolérance. L'intolérance au lactose, elle, c'est le résultat d'études qui ont été faites à travers le monde, justement. Elle diminue avec l'augmentation de la latitude et elle augmente avec la hausse des températures.
OK.
Par exemple, les Européens, bon, ils consommaient la production laitière de leur élevage. Et ils ont subi une mutation génétique qui maintient la production de la lactase. Donc, l'enzyme qui métabolise le lactose et permet son alimentation à l'âge adulte, alors qu'elle devrait disparaître en vieillissant. Par contre, en revanche, dans le climat rude de certaines zones d'Afrique ou d'Asie, et la présence de maladies mortelles pour le bétail, ça a limité l'accès au lait.
OK.
Hein? Donc, oui, c'est à la fois, oui, c'est génétique, mais c'est aussi géographique,
c'est
finalement.
Ça. Culturel.
C'est quand même assez étonnant. Hein?
Et la consommation de lait est en nette régression actuellement.
Oui, 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 bah parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec le lactose, oui, les intolérances, oui, au lactose.
Oui, et aussi qu'on a trouvé toutes sortes d'autres produits. Par exemple, lait de soya qui n'est pas du lait. Mmh, lait de soya et d'autres produits différents.
Oui, absolument, c'est des substituts.
De toute façon, tout ce qui est en ce moment, tout ce qui est animalier, là, il y en a beaucoup.
Oui, oui, oui.
Enfin bon, il fut un temps où nos parents, nos grands-parents buvaient le lait directement.
Exactement, du bétail.
Moi, du bétail, et puis là...
J'allais chercher dans un petit pot à lait en métal le lait encore chaud, oui, de la vache.
Oui. Et on gardait la crème pour faire la pâte à gâteau.
Oui, pour faire la pâte à gâteau.
Exactement. Il y a un truc terrible, moi, que je me souhaite, mais alors tellement pas dans la vie, ce sont les gens qui perdent le goût.
Ah oui, ça, c'est quelque chose, hein?
Parce que ça...
Est-ce que vous savez comment ça s'appelle,
cet amour? Oui, non, comment on dit ça?
Ça s'appelle aguesie.
Ah!
Ça, c'est la perte totale.
Ça veut dire qu'ils ne font aucune différence entre un aliment et un autre.
Non,
il n'y a que la texture.
Pas. Absolument.
Mais pour
absolument.
Le goût, moi, il me semble, enfin, en tout cas. Mais est-ce qu'on peut le retrouver?
J'ai une de mes amies qui a une forme d'aguesie. Parce qu'il y a différents degrés, hein, de perte de
Mais est-ce que votre article en parle? Est-ce qu'on peut retrouver le goût?
Oui, on peut le retrouver. La perte de la sensibilité gustative, généralement, elle survient avec le vieillissement. Donc, en vieillissant, on va en perdre. Mais on peut le retrouver.
Allons bon.
Ça dépend un petit peu des situations dans lesquelles on a perdu le goût. Si on a perdu le goût, par exemple, suite à un accident ou quelque chose comme ça, ça peut être irréversible. Mais par exemple, il y a des médicaments qui vont altérer le trouble de la gustation.
Oui, puis les traitements, traitements de chimiothérapie, par exemple, au niveau de la gorge.
Absolument. Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais. Des carences en vitamine D. Les gens ont un goût de métal dans la bouche.
Ouais. Des carences en vitamine aussi, par exemple, B3 ou B12, en cuivre, en nickel, ça va les... Mais dans beaucoup de cas, ils peuvent le retrouver. Dans certains cas, c'est définitif.
Et est-ce que le contraire existe? Est-ce qu'il y a des gens, là, le goût, ils
l'ont? Je ne sais pas, qui ont une grande sensibilité à la...
Je ne sais pas non plus.
Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé la réponse dans l'article, puis je n'ai pas eu la curiosité. Souvent, je vais chercher un petit peu ailleurs des articles, mais là, je n'ai pas pensé à cette question-là.
Il nous reste un petit peu de temps pour des petites brèves, mes amis. Enfin,
ah ben moi, j'ai encore des choses à vous dire sur le goût. Est-ce que
non,
je peux?
Non, c'est trop tard.
Je niaise.
Alors, non, mais avez-vous encore une petite brève, tiens, sur le goût? Ça m'embêterait tellement de vous frustrer, mon ami André.
Bon, parce que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on apprécie le champagne, le savez-vous?
Oh, non.
Eh bien, on l'apprécie à cause des bulles.
Parce que... J'ai failli le dire, puis je dis, c'est un peu ridicule, mais
je vais lui couper son punch.
Mais non, mais vous avez bien
Parce que quand on boit une gorgée de champagne, par exemple, les bulles, elles s'accrochent à la surface de la langue et elles explosent. Puis c'est à ce moment-là, en libérant un filet de liquide qui va se fractionner en gouttelettes, qu'on perçoit les arômes à ce moment-là. C'est quand les bulles éclatent qu'on perçoit tous les arômes du champagne.
Oui, je comprends. Voilà. Ah, mais c'est bon. Avez-vous une petite...
À condition que le pétillant soit...
Ah bah
bon.
Oui, bah ça c'est sûr. Que...
Ah bah oui.
Est-ce que vous savez comment on conserve le pétillant d'une bouteille de champagne? Et ça marche.
En mettant une petite cuillère, la tête en haut.
Mais en argent.
Oui,
il faut qu'elle soit en argent.
Ah, oui.
Si elle est en stainless steel ou en je ne sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. Oui.
Ah,
mais
pas
en argent, oui, ça protège.
Il ne faut pas oublier de l'enlever cependant quand on verse.
Non, effectivement. Mais
c'est... Michel, pratico-pratique.
Michel, une petite brève, mon ami.
Je veux parler de quelque chose de particulier, les toilettes nippones. Il n'y a rien à voir avec le goût, hein?
Les toilettes nippones.
Vous savez que les touristes étrangers ne savent pas comment utiliser les toilettes publiques japonaises. C'est le constat qu'ont fait les autorités sanitaires de la ville de Kyoto.
Ça ressemble à quoi?
Ben, j'ai aucune idée. Je ne me souviens pas d'avoir vu.
Alors...
C'est, depuis la fin du mois de juin, il y a des affiches en japonais, en anglais, en coréen, mandarin, allez-y, qui expliquent notamment l'activation des divers capteurs électroniques qui ont été installés. Ça a été mentionné dans le Japan Times. Alors, des millions de touristes étrangers sont passés au Japon. Bien, 11 millions de touristes sont passés au Japon. Ils ne savaient pas comment faire marcher les toilettes. Incroyable, hein? Eh oui.
Mais ils donnent pas la réponse, là, dans votre article?
On dit pas à quoi ça ressemble.
Il faut y aller pour le savoir, hein.
Oui, mais ça aurait été bien qu'ils nous disent à quoi ça ressemble.
Ben, ça s'appelle une brève.
Oui, mais ça, d'accord. Mais c'est
ça ne recouvre pas
sujet en
complet.
En tout cas, d'après ce que je comprends, il y a un paquet de pitons électroniques qui font que c'est peut-être ça. Quoi. En 40 secondes, en avez-vous une pour nous ou pas?
Oui, moi j'en ai une quand même.
D'accord.
C'est Amazon qui va livrer votre colis par drone.
Ouais, par drone, oui, on en parle.
C'est complètement fou, ça. Hein. C'est pas seulement... ils vont livrer par drone. Ouais. Ils peuvent apporter une commande à l'endroit précis où se trouve le client en le repérant grâce au GPS de son smartphone.
Mais chez nous, avec les fils électriques, de toute façon,
ils vont se prendre dans les fils électriques.
Il va falloir enterrer les fils électriques, ça coûte trop cher.
Ça me fait peur de voir passer mon paquet comme ça au-dessus de ma tête avec un drone.
C'est pour moi. Ah, Marie Laberge. Qui a commandé Marie Laberge? Ah non, moi c'est Michel Tremblay. Ok, meilleure chance la prochaine fois, bonjour. Vous restez avec moi encore pour une petite demi-heure, mes amis? Ça me ferait plaisir.
Oui.
Alors restez avec nous. À tout de suite. Alors, j'ai toujours mes précieux collaborateurs avec moi aujourd'hui, soit Michel Audet et André Étienne. Est-ce que ce serait possible que les mammouths arrivent dans ce studio, débarquent?
Vous allez voir, c'est étonnant, cette chose-ci. Hein? C'est Robin Clergeat qui nous parle de nous faire revivre le mammouth et s'est tiré de Paris Match.
Okay. Ah,
on n'est pas encore à Jurassic Park. Mais au point qu'on pourrait bientôt voir ce qui ressemblera à un mammouth et ça va arpenter les steppes de Sibérie. Je dis bien ça va ressembler seulement, car la technique qui est utilisée par le scientifique, qui s'appelle George Church et son équipe, elle est différente de tout ce qui s'est tenté jusqu'à présent. Alors, plutôt que de recréer entièrement l'ADN du mammouth, lui a choisi une voie intermédiaire. Il y a peu de temps, les manipulations génétiques comportaient toujours une part d'imprécision, donc une part d'inconnu. Grâce à la technique de séquençage qui est récente, on peut désormais modifier précisément un ou plusieurs gènes.
Okay.
Vous savez, comme par exemple chez les enfants, on choisit, on dirait, je veux qu'il ait des yeux bleus, les cheveux. Ouais. Bon, c'est la même chose. On peut même modifier le génome entier. Le génome, en fait, c'est l'encyclopédie humaine. Tout ce que vous êtes. Alors ça, c'est la piste qui a été empruntée. Non pas pour donner un mammouth exactement comme celui qu'on connaît ou qu'on a vu, mais pour modifier l'ADN d'un éléphant d'Asie et le doter de certaines caractéristiques de l'animal préhistorique.
Autrement dit, on va lui faire pousser les poils à cet éléphant.
Des choses semblables, c'est ça. Vous savez que les deux espèces, c'est-à-dire l'éléphant d'Asie et le mammouth, sont plus proches l'une de l'autre que l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique.
Ah, OK.
Ça m'a étonné beaucoup. Et pour l'heure, le but n'est pas de recréer un mammouth parfait, c'est de rendre des animaux extrêmement résistants au froid.
Ah.
Alors, pour qu'une population d'éléphants d'Asie puisse espérer survivre dans un environnement où la température descend à moins 50 degrés, donc ils pourraient vivre chez nous, de quoi a-t-il besoin? Ben, des capacités de résistance polaire que possédaient les mammouths. Donc, ils ont privilégié les gènes qui sont associés à la résistance au froid, comme par exemple, vous le mentionniez, des longs poils.
C'est
la taille des oreilles aussi qui est importante.
Ah?
Les couches de graisse, la protection contre le froid et surtout l'hémoglobine.
Le mammouth était plus gras que l'éléphant.
C'est
mais ça se voit pas parce qu'il avait les poils.
Voilà. C'est ça.
Moralité, André, on n'a qu'à se faire pousser des poils.
C'est ça, voilà. C'est ça, pour camoufler.
D'accord.
C'est camoufle. En fait, ce n'était qu'un camouflage, dans le fond. Hein. C'est, donc, l'hémoglobine, c'est la molécule du sang qui permet de transporter l'oxygène dans l'organisme. Et c'est ce qu'on veut transformer aussi. Ben, pour l'heure, l'expérimentation reste confinée au laboratoire.
Ah.
Mais d'ici 2018, des éléphantes d'Asie porteuses vont être inséminées dans l'espoir de voir naître 22 mois plus tard, non pas de vrais mammouths, comme on l'a mentionné, mais des éléphants d'un genre nouveau qui posséderaient des caractéristiques de résistance au froid. On leur a déjà trouvé un endroit, un enclos, qui s'appellerait Pleistocène Park. en Sibérie.
En Sibérie.
Un espace de 16 kilomètres où ces hybrides pourraient évoluer. Et vous savez que c'est pas nouveau, hein? En 2008, des scientifiques avaient réussi à obtenir un résultat fiable à 80 %. Au mois d'avril 2015, une équipe composée de chercheurs de chercheurs suédois.
OK.
J'étais loin de la réalité. Suédois et américains est parvenu à obtenir un génome. Alors, grâce à des échantillons prélevés sur deux mammouths ayant vécu 40 000 années d'écart dans le nord de la Sibérie, dans l'océan Arctique, et le second, il y a 4300 ans seulement. On a tendance à penser que les mammouths, il y a des milliers ou des centaines de milliers d'années. Mais vous savez que les Égyptiens bâtissaient des pyramides. Et à ce moment-là, il existait encore une espèce de mammouth.
Ah, ben c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils les construisaient, alors. Non, c'est les mammouths qui
faisaient ça. C'est nouveau, hein, quand même.
On s'est toujours demandé.
Explication.
Oui, ça serait peut-être la
suite. Comment?
Mais
il
restait dans une petite île au nord de la Sibérie. Okay. Donc, c'était quand même un petit peu loin. Et vous savez, selon le chercheur que j'ai mentionné tout à l'heure, George Church, repeupler la toundra sibérienne de mammouths pourrait sauver la planète. Ben, c'est son hypothèse. Bon, voilà, il l'explique de la façon suivante. Ça atténuer les conséquences du changement climatique dans une région où la fonte du permafrost, la gelée permanente, là, et c'est une bombe à retardement. M'excuse. Les mammouths présenteraient l'avantage de pouvoir se nourrir de l'herbe morte.
Oui.
Et à ce moment-là, ils permettraient au soleil d'atteindre l'herbe fraîche en dessous, dont les racines préviennent l'érosion.
Ah.
Et en outre, le nettoiement des alentours des arbres qui ont poussé depuis et absorbent les rayons du soleil. Alors, ça serait une autre façon. Et enfin, leur déplacement, et ça, je trouve ça, bon, c'est sa façon de le voir, mais le déplacement balayerait la neige, ce qui permettrait à l'air froid de pénétrer dans le sol et d'absorber, d'abaisser plutôt la température.
S'il n'y a pas une couche de glace en dessous.
Bon, c'est ça, c'est son hypothèse.
Mais est-ce que vous savez, est-ce qu'ils le disent là-dedans, ça vient d'où le mot mammouth?
Oui, c'est assez étonnant. Le mot mammouth vient du russe.
Ah, vous le savez, ils le disent.
Je sais presque tout sur les mammouths. Hein?
J'en reviens pas.
ça vient du russe, je ne peux pas nécessairement prononcer, mais c'est quelque chose comme mammouth, qui signifie corne de terre. De terre. Je vois pas vraiment la relation. Là. Et il est apparu pour la première fois en anglais dans le dictionnaire russico-anglais.
Okay.
En 1618, quand même, que ce mot est apparu. Vous savez qu'il y a 39 corps préservés de mammouths qui ont été exhumés. Et 4 de ceux-ci sont complets.
Ah, oui.
Donc, ce qui permet vraiment de savoir qu'est-ce que c'était cet animal, vraiment le reconstituer. Et la société de vente aux enchères Christie's a jugé un squelette de mammouth pour 260 000 euros.
Qui, à la place,
en 2006.
De mettre ça dans son appartement?
Oui, tiens, on pourrait peut-être mettre ça dans le living, mon amour. Qu'est-ce que tu m'en penses?
mon animal de compagnie à vous présenter.
Dites-moi... Les restes de mammouth, on a retrouvé ça alors? Parce que si vous me dites que ça date de 4000 ans, à quand à peu près ça date
quand on les a retrouvés?
Ouais.
Attendez un peu, les premiers mammouths congelés ont été découverts en Sibérie en 1799.
En 1799, oui, 10 ans après la Révolution. Bon.
Oui, c'est ça, précisément.
Non, mais...
Donc on en a trouvé énormément, hein, on a pu reconstituer...
Mais moi, je me pose une question, mes amis.
Oui, on a le droit.
Existentielle. D'accord. C'est qu'on sait que, par exemple, les populations, les colonies, peut-on dire ça comme ça, d'éléphants tendent à disparaître. Mm-hmm. Comment se fait-il qu'il y en ait qui parviennent éventuellement à transformer la race pour en faire des espèces de pseudo-mammouths pour sauver la planète? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas faire la même chose pour éviter le dépeuplement éléphantesque des éléphants? Mais...
Oui, mais on a perdu la bataille, hein, pour la question des éléphants.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas? Ça ne doit quand même pas être si compliqué que ça d'avoir de la semence.
Oui, j'aimerais vous donner les chiffres des milliers d'éléphants qui sont tués.
C'est ça, qui sont tués.
Donc, imaginez, pour remplacer...
C'est l'éléphant d'Afrique.
On a perdu la bataille contre les braconniers.
Oui, c'est ça.
On va simplement voir les gens en Afrique, de quelle façon ils sont armés pour combattre les braconniers qu'eux autres sont armés de Kalachnikov.
pour combattre même contre les gardiens des, gardiens
alors,
des éléphants.
Au moment où on abattait, il y a quelques années, un éléphant ou deux éléphants, on trouve des, ce qu'on appelle des cimetières d'éléphants, où on en trouve 100 à la fois. Hein. C'est, on a perdu la bataille en Afrique. C'est absolument dramatique, cette chose.
Alors qu'en Asie, non. Donc, là, quand on parle de la disparition de l'éléphant en Afrique.
C'est principalement en Afrique.
Et pas l'éléphant d'Asie.
À cause du commerce de...
Quelle tristesse.
C'est ça. Oui, c'est tout à fait triste.
Quelle tristesse pour l'ivoire et tout ça. Je voudrais que vous nous rappeliez cet excellent article. Il a
c'était
été écrit...
tiré de Paris Match. OK. Et c'était M. Romain Clergeat qui nous en parlait.
D'accord. Merci beaucoup, Michel. Alors, André, après les bibites à poils, les bibites à plumes?
Oui, les bibites à plumes, exactement. Donc, je vais d'abord vous parler de celui que vous n'aimiez pas, là. Donc, les fascinants vautours charognards. D'abord, je vais vous dire que c'est extrait d'une revue qui s'appelle Tout savoir. Et puis, il n'y a pas de date de la revue, il n'y a pas d'auteur non plus. Bon. Mais vous allez voir que c'est quand même très intéressant tout ce qu'ils nous proposent. Alors...
On y va.
Voilà.
On plonge.
Donc, on se demande si leur réputation d'abord de charognard et d'opportuniste est vraiment vraie. Mm-hmm. En fait, ce qu'ils écrivent, ils disent qu'ils n'avaient pas le choix finalement parce qu'ils vivent dans des écosystèmes qui comprennent uniquement des gros ruminants.
Okay.
Bon, c'est un gros oiseau, le vautour, d'accord, mais ça pèse à peu près 2 kilos. Et pour abattre un buffle de 500 kilos, ce n'est pas forcément évident. Hein. Mm-hmm. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'attendre que les 10 buffles meurent de causes naturelles. Patience, patience, patience.
Ouais, hein. Oui, voilà. Oui, c'est ça au départ, bien sûr. Parce qu'ils ont l'air énormes. On peut penser qu'ils sont lourds, mais ce n'est pas vrai. Quoi. Une fois que tu leur enlèves le poil, il reste quoi, un petit poulet. Quoi.
Ouais, c'est 2 kilos, ce n'est pas beaucoup quand même.
Le plumage est considérable.
Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre-là.
Alors qu'est-ce que... Ça mange quoi, un vautour?
Alors, ça mange. En tout cas, tout les prédispose à devenir des charognards. Donc, ça mange à peu près tout, qu'ils soient morts de préférence. Et il y a plein de raisons qui sont comme anatomiques, si on peut dire. Hein. Parce que d'abord, ils ont un estomac qui est tellement solide qu'ils peuvent manger des animaux qui sont morts depuis une semaine. Pourquoi? Parce que l'acide de leur estomac est presque 10 fois plus concentré que le nôtre. Puis on sait que le nôtre est déjà pas mal acide, hein, notre estomac. Hein, quand des gens qui ont des remontées, ils le savent. Hein. Et leur estomac, ils sont protégés par des bactéries de la chair putride qui, en plus, quand pourrait être fatal pour n'importe quel autre animal qui mangerait un autre de ses copains mort depuis 10 jours. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que leurs excréments, ils sont plus sains que les aliments qu'ils ingurgitent. C'est incroyable, hein, quand même.
Ça a été filtré, quoi.
Bon, exactement, c'est ça. C'est parce qu'en plus, les toxines qui étaient produites par les animaux morts depuis longtemps, elles s'en nourrissent, elles sont absorbées par leur jabot et en plus, elles sont neutralisées par des anticorps qu'ils possèdent dans leur sang.
Okay.
Donc, quand je vous dis qu'ils sont vraiment prédisposés à être des charognards, leur odorat, il est absolument excellent. Ils sont capables de détecter des animaux morts à plus de 1 kilomètre. Hein? Et au passage, dans l'article, ce qu'ils disent, c'est que cet odorat est si développé qu'il semble qu'il soit vraiment spécifique aux vautours et qu'il soit inhabituel aux autres oiseaux de proie. Leurs pattes. Une particularité encore. Ils urinent délibérément dessus.
Oh.
C'est dégoûtant, hein?
Oh.
Mais savez-vous pourquoi ils le font
ça
délibérément?
J'imagine qu'il y a une raison.
Exactement, il y a une raison. C'est parce que donc l'acide, très acide, n'est-ce pas, va tuer les bactéries qui s'y accrochent quand ils marchent dans les carcasses. C'est répugnant, hein?
C'est répugnant, mais c'est bien pensé pareil. C'est bien pensé,
ils font comprendre ça. La forme de leur bec, vous avez tout de suite l'image du vautour dans la tête, hein, le bec crochu, elle leur permet de déchiqueter la viande. Bon, en plus, on a vu qu'ils ont un excellent odorat, mais ils sont aussi dotés d'une excellente vision.
Ouais, comme les...
Ils sont capables de scruter une vaste étendue de prairie rapidement et ils repèrent les animaux morts par la vue en jetant évidemment leur dévolu sur ceux qui sont immobiles puisque plus facile a priori à attraper. Par-dessus le marché... Le vautour, il possède une très large envergure de 1,80 m.
Ah oui, c'est énorme.
Donc, très adapté au vol.
Ouais.
Et maintenant, il faut savoir quand même qu'il ne mange pas que des charognes. Ils ne se contentent pas toujours d'attendre s'ils ont très faim puis qu'ils croisent un animal qui est simplement affaibli. N'ont pas dit que j'ai d'objection à l'aborder. Hein. Ils plongent alors leur tête dans la cavité du corps de l'animal et comme leur tête est dépourvue de plumes, elle ne retient pas le sang,
oui,
ni les sucs qui pourraient gêner leur vision et générer des infections. Mais c'est vraiment fait pour...
C'est fou.
C'est fou, hein?
Mais jamais ils vont s'attaquer à un petit animal en santé?
A priori, non. Ils vont, si, par exemple, ils voient un animal qui est affaibli, par contre, et puis
affaibli,
ils ont faim...
Affaibli, c'est ça.
Ils vont, les animaux vivants, a priori, c'est, pas vraiment.
C'est fou, hein?
Ils vont vraiment chercher les animaux affaiblis. Au passage, quand même, je vous signale qu'il y a un corollaire de cette évolution vers une tête chauve, parce qu'on voit tout de suite l'image, hein, de celui qui est dans l'arbre.
Ouais.
Ils utilisent leur cou pour réguler leur température corporelle, parce qu'ils peuvent l'allonger ou l'arrondir afin d'adapter la quantité de chaleur perdue par la peau exposée au soleil. Donc voilà, après avoir fait ripaille, ben, tranquillement, ils se perchent sur les arbres, ils somnolent sur une roche. Et
un,
puis
petit
ils attendent
allez, hop.
Un petit rond. Mais ils sont quand même obligés d'attendre un courant ascendant assez fort qui va les aider à se lancer dans les airs.
Ah oui?
Oui, ils sont obligés, ils ont besoin d'un courant ascendant qui va comme les pousser. Ah. Ils sont capables de décoller par eux-mêmes, mais
ouais,
ils ont besoin pas mal d'un courant ascendant.
Je peux vous dire que le bruit... D'un groupe de vautours qui est en train de gruger un animal, c'est très impressionnant. Parce qu'ils sont toujours très nombreux. Hein?
Oui.
Bon. Est-ce que j'ai du temps encore pour vous parler des oiseaux-mouches?
Oh, ben oui, mais on va se faire un petit break, une petite pause, s'il vous plaît.
D'accord.
Alors, on va passer de 1,80 m d'envergure à 18 mm d'envergure.
À peu près. On passe d'un animal qui est quand même très laid, il faut le reconnaître, ouais, même s'il est indispensable au ménage de la nature, c'est quand même très laid. Les oiseaux-mouches, par exemple, je trouve que ça fait c'est toujours un bonheur quand on les voit. Hein. Donc, vous savez qu'on les appelle aussi des colibris. Hein.
Oui.
On les appelle les oiseaux-mouches. Et il y en existe quand même 300 espèces. Un rôle auquel on ne pense pas forcément en les regardant parce qu'on est subjugué par leur esthétique, ils assurent la pollinisation de près de 2000 fleurs en 24 heures.
Ah là là!
Considérable,
hein? C'est considérable, hein?
Ah ouais.
Leurs ailes, elles peuvent battre jusqu'à 80 fois par seconde. Ça veut dire que c'est plus d'une fois par seconde, hein? Et alors, ces ailes, elles ont évidemment des particularités, hein, parce qu'on sait quelque chose concernant les colibris. Mais d'abord, ben, si vous y pensez, là, avez-vous une image là, dans votre esprit d'un petit colibri?
Clair.
Bon, leurs bras, hein, ils sont très courts. Les jointures du coude et du poignet, elles sont fixes. Par contre, l'articulation de l'épaule, elle leur permet de pivoter à 180 degrés et de bouger dans toutes les directions.
Ah.
Ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, ils ont un cœur qui est bien spécial, parce que leur cœur à eux, il est constitué de 4 chambres. Donc, ça permet un transfert d'oxygène qui est particulièrement efficace et il bat 500 fois à la minute au repos.
Oh.
Alors, ne me posez pas la question. Ne me demandez pas combien ils battent en vol. Ils ne le disent pas. Puis j'ai essayé de trouver l'information sur Internet. Je ne l'ai pas trouvé. Cette page, c'est cherché.
Hein?
Ils sont toujours affamés parce que leur métabolisme est le plus rapide de toutes les autres créatures et ils consomment chaque jour 3 fois leur propre poids.
Ah, ça, c'est incroyable.
C'est incroyable, hein?
Ça dépense beaucoup d'énergie.
Hein? Ouais. Ça dépense beaucoup d'énergie à voler
donc,
en permanence.
Il y a besoin de récupérer.
Absolument. Hein? Ils ne se posent jamais, hein, les colibris, hein, parce qu'ils sont vraiment faits juste pour voler.
Ah oui?
Ils ne marchent pas, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'ils ne se posent pas, on les voit, mais ils ne marchent pas. Leur couleur, évidemment, hein, c'est ce qui nous fascine. Il faut savoir que ce sont, comme pour plusieurs oiseaux, les ailes de leur queue qui leur servent de gouvernail. Alors, en vol, ils ont un battement d'ailes qui est si rapide qu'ils peuvent en fait planer. Mais il peut planer, vous le savez, que c'est le seul oiseau qui peut voler en sens inverse. Il peut voler à l'envers. Hein? Je crois d'abord...
Il peut reculer.
Il peut reculer.
Ah oui, oui, dans tous les sens. C'est, hein, c'est
je crois que c'est le seul oiseau. Si jamais vous en connaissez, ou vous deux, ou vous autres auditeurs, vous pouvez laisser un message, j'aimerais ça. Et vous observerez une chose, c'est qu'en fonction de du vol qu'ils ont, par exemple, quand ils volent en arrière, leur corps, ils sont à la verticale. Mm-hmm. Vous avez des images hein, dans votre esprit.
Oui, ouais, tout à fait.
Quand ils volent sur place, vous regarderez bien qu'ils ne battent pas des ailes. Ils ne font qu'utiliser leurs mains. Ils utilisent juste le bout de leurs ailes. Voilà, exactement. Bon, et cette prouesse, elle s'explique donc par le fait que leurs ailes peuvent pivoter en sens, en cercle, et qui vont générer donc une poussée qui est aussi bien ascendante que descendante. C'est parce qu'ils ont des très longs os dans leurs mains que leurs ailes peuvent rester comme ça et battre très rapidement. Leurs ailes, elles sont aussi flexibles à l'épaule, mais pas au niveau du poignet. Voilà.
Alors, ce qu'on avait à dire. Ouais, non, mais c'est vraiment... Allez-y, pardon, je vous ai interrompu, vous alliez...
J'allais dire que quant à leurs pattes, elles ne s'en servent que pour se percher ou pour gratter, mais jamais pour marcher.
Ah oui, c'est ça.
C'est intéressant, c'est avec les images ultra ralenties qu'on peut avoir maintenant, ouais, avec les caméras,
ah, ouais, ça, c'est formidable.
Tout à fait ce que vous venez de décrire.
C'est ça.
Michel Audet, vous nous amenez vers quel sujet maintenant, vous?
Je vais vous parler d'un site de rencontre pour chiens.
Manquez plus que ça.
Non, c'est avec les sites de rencontre sont populaires.
Ashley hein? Woof.
Internet.
Ashley Woof. Mais c'est...
Bon, ben, votre animal fait partie de votre quotidien, hein, j'imagine. Ben, à vos claviers, hein, les réseaux sociaux pour animaux commencent à avoir la cote. Tindog, c'est une application gratuite pour rencontrer des amoureux des chiens dans votre quartier. Ça a été lancé récemment. Ça fonctionne comme sa grande sœur Tinder, avec des services de géolocalisation. Alors, on crée le profil de son chien avec une fonction. Et puis, ben, si on n'aime pas à droite, puis si on aime à gauche, des choses semblables. L'application est gratuite pour les particuliers qui peuvent bâtir autant de profils qu'ils ont de chiens. Et les propriétaires peuvent inclure une seule photo, une photo d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est de rencontre pour chiens, oui.
Oui, enfin, pas seulement pour chiens.
Il s'agit d'un véritable réseau social, qu'on soit propriétaire de chiens. Il y en a pour les chats ou pour autres. Hein. Il y en a à Montréal, il y en a un peu partout. Hein.
Mais c'est vraiment pour faire rencontrer des individus.
Ben
et
oui,
pas des...
c'est un prétexte à rencontre, ce qui est très bien d'ailleurs.
Hein. Merci, Michel. Moi, j'ai envie de vous proposer, mes amis, une petite escapade sur l'île Saint-Bernard. Vous qui nous avez parlé de l'île des Sables, savez-vous où se trouve l'île Saint-Bernard?
Pas du tout.
Eh bien, c'est très près de chez nous, c'est dans la région de Châteauguay. Et c'est une île, cette île Saint-Bernard qui se laisse découvrir tout doucement. C'est une île sur laquelle on se rend pour profiter de la nature, nous dit Sarah-Émilie Hinault dans le journal de Montréal. Et c'est une île qui est notamment... réputée pour ses couchers de soleil assez saisissants, assez extraordinaires. Et c'est une île excessivement calme. Alors, on peut s'y rendre en voiture les fins de semaine. Donc, c'est après Châteauguay, il n'y a qu'à suivre les indications, comme on dit.
Les
pancartes, oui, absolument. Bon, mais on peut y aller. Non. Et ensuite, il y a des bateaux qui permettent de pouvoir traverser. Alors, pour les gens qui sont friands d'observation de la faune et de la flore, il y a une foule d'activités qui sont proposées là. Il y a aussi des récrés autour, il y a des activités éducatives pour les jeunes, il y a un refuge faunique qui, vraiment, c'est un secret très, très bien gardé, je trouve, l'île Saint-Bernard, à côté de Châteauguay. Thank you.
Alors, je m'avais promis de vous parler aussi de la grande force des aigles royaux. Bon, ils ont plusieurs forces, hein. Il ne fait pas bon être un lapin quand on est dans les parages. Hein. Donc, ils ont une envergure de 2 mètres et ils ne peuvent chasser dans la forêt dense. C'est pourquoi ils sont spécialisés dans les parcours des Landes. Hein. Leurs proies sont rares et doivent balayer des étendues aussi vastes que 160 km² pour trouver un animal à déguster. Les muscles de leurs ailes sont très puissants. Ils peuvent peser jusqu'à 7 kg. Et alors, eux, absolument, pour décoller, ils doivent décoller en un seul bond. Donc, ils doivent attendre vraiment un vent qui les pousse.
Ah oui.
Leur plus grande force, ce sont leurs yeux. Ils sont très grands et ils sont dirigés vers l'avant. Ils offrent une excellente vision. Ils peuvent détecter un lièvre à plus de 3 km. Hein? Mmh. La densité de photorécepteurs de leur rétine, elle est 6 fois plus grande que celle de l'œil humain. Alors, vous comprenez que tous ces facteurs combinés donnent aux ailes royaux une acuité visuelle tout à fait exceptionnelle. Hein. Alors, en plus, ce qu'ils possèdent, c'est une paupière supplémentaire qui est translucide, qu'on appelle une membrane nictitante, qui se ferme latéralement et juste avant une descente en piqué. Vous imaginez que ça fait du vent, hein? Cette membrane recouvre l'œil pour le protéger.
Oh, que c'est intéressant, ça!
Leurs yeux sont si grands qu'ils peuvent à peine bouger dans leurs orbites. Heureusement, ils ont une tête qui tourne à 270 degrés qui pallie ce handicap.
Oh là là.
Ils volent toujours très bien, très haut dans le ciel, parce que comme ça, leurs éventuelles proies ne peuvent pas les repérer. Et par contre, on a quand même documenté des aigles royaux qui attaquent des cerfs adultes et même un ourson. Mais leurs proies habituelles, c'est plutôt les lièvres, les renards,
ouais,
les tartrilles,
les lapins, petites choses. Mais eux, ils mangent des petites choses vivantes.
Ah oui, absolument, absolument. Ah oui. Ils ne sont pas des charognards du tout. Là.
Restez là, je vous amène en Martinique, chez nous. Vous allez comprendre. On parlait de goût et de voyage ce matin, mais j'ai trouvé une petite brève pour vous qui marie les deux. À compter de ce jeudi, figurez-vous, et jusqu'au dimanche 27 septembre, la Martinique. Eh oui, la Martinique s'installe à Montréal. Ce sera la 8e édition du festival culinaire Martinique gourmande. C'est vachement sympa, hein?
Ouais, oui.
C'est le moment de découvrir la richesse du patrimoine culinaire de cette fleur des Caraïbes. Alors au programme, dégustation de rhum agricole. il faut dire que la Martinique est aussi la capitale mondiale du rhum. Ça, c'est dans les SAQ. Il va y avoir des ateliers de cuisine martiniquaise où l'on apprendra, entre autres, à préparer le pain au beurre, qui est une espèce de brioche tressée. Et puis, au chocolat aussi.
Oh, d'accord.
C'est directement sur les hanches. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par la Martinique à Montréal, je vous propose un site. C'est simplement le www.martiniquegourmande en un seul mot.ca pour tout savoir de ces festivités entourant la Martinique et qui rend visite à Montréal, une visite gourmande. Je finirai simplement avec le guide Ulysse qui s'appelle Explorer la Martinique et qui semble le complément idéal à ces belles rencontres gourmandes. Si vous avez l'occasion, on peut se le procurer, ce guide-là. Alors voilà, donc, je vous le rappelle, www.martiniquegourmande.ca pour aller manger toutes sortes de recettes.
Arrosé de rhum.
Arrosé de rhum. Un rhum qui n'est pas le même que le rhum. Non, pas du tout. C'est complètement... Un petit punch martiniquais.
Beaucoup plus goûteux.
Mais oui, beaucoup plus goûteux. Mais quand tu mets, il y a du... Oh, écoute, la canne à sucre là-dedans, puis le jus de fruits, puis moi, ça me saoule illico presto. Merci beaucoup, mes amis. Je vous dis à la semaine prochaine. André, Étienne.